Merci d'écouter RFI. Il est 1h à Paris, 2h dans la bande de Gaza.
Mathis Limano.
Et à la une, jour de retour pour des centaines de milliers de Gazaouis déplacés du nord de l'enclave. Une véritable marée humaine a déferlé après 15 mois de guerre. La prochaine libération d'otages retenus à Gaza aura lieu jeudi. 3 personnes doivent être relâchées. À suivre aussi les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau et son lot d'hommages. Une portée d'autant plus symbolique que l'antisémitisme est en pleine montée, condamne un rescapé du camp de la mort. Et puis à la une également, un acteur chinois de l'IA affole la bourse américaine. Voilà l'essentiel, soyez les bienvenus.
RFI.
Une file humaine qui s'allonge sur plusieurs kilomètres. Des familles et des proches séparés qui se retrouvent après 15 mois de guerre. 300 000 Gazaouis ont pu regagner le nord de l'enclave ce lundi. Ce sont les chiffres du gouvernement du Hamas. Initialement prévu dimanche, l'ouverture du passage a été retardée. Benjamin Netanyahou reprochant au mouvement islamiste la non-libération d'Arbel Yehoud, civile israélienne, lors du deuxième échange de la trêve ce week-end. Elle est apparue ce lundi, éprouvée dans une vidéo du djihad islamique et sera finalement relâchée jeudi. Les demandes d'Israël ont été satisfaites par le Hamas, alors les déplacés gazaouis ont pu rentrer chez eux. Reportage à Gaza, Rami El Merali avec Sami Boukhalifa.
Évidemment que je souhaite rentrer chez moi. Mohamed Dahdouh est originaire de Gazaville. Dès le début de la guerre en octobre 2023, il quitte sa maison et tente de trouver refuge dans le sud de la bande de Gaza, relativement moins ciblée par les frappes israéliennes. Une vie de misère sous la tente. Régulièrement, il faut fuir. Des déplacements à répétition. Khan Younes, Deir el-Balah, Nusayrat et plein d'autres endroits encore. Dans cette guerre, il a perdu certains de ses proches, sa maison, sa ferme, ses vaches et sa laiterie fromagerie. Tout ce qui lui reste tient dans un sac qu'il porte à bout de bras. Tôt ce lundi matin, il s'est mis en route avec sa famille. Et à 7h locale, l'armée israélienne a enfin ouvert le passage et s'est retirée du centre de la bande de Gaza. Ils ouvrent, crie une femme. La joie, des sourires se dessinent sur les visages épuisés. Une foule dense se met en route. Des enfants, des vieillards, après l'exode forcé, le retour au milieu des ruines et du chaos. Mais nous sommes heureux, dit Samira. Cette jeune femme mesure sa chance. Notre maison n'a pas été détruite. Elle est endommagée, mais toujours debout. On a 4 murs et un toit au-dessus de notre tête. C'est mieux que de vivre sous une tente. Rami El Merali, Gaza. Sami Boukhalifa, Jérusalem. RFI.
Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a aussi exigé de connaître l'état des 26 otages libérables lors de cette première phase de l'accord. Selon le gouvernement israélien, 8 d'entre eux sont morts. Damas salue la décision de l'Union européenne d'assouplir les sanctions contre la Syrie. Les secteurs syriens de l'énergie, des institutions financières et du transport seront les premiers concernés par cette levée de sanctions. Elle visait à l'origine le régime autoritaire de Bachar el-Assad, renversé début décembre. Mais les nouveaux dirigeants ont donné des gages suffisants, estiment les 27. Mais attention tout de même, prévient la chef de la diplomatie européenne Kaya Kallas, cette levée des sanctions sera annulée si des mauvaises décisions sont prises. Fin de citation. Plusieurs hauts responsables et entreprises de défense en Biélorussie, elles visées par des sanctions britanniques et canadiennes, annonce de Londres et d'Ottawa au lendemain de la réélection d'Alexandre Loukachenko à la tête du pays. Un scrutin truqué, estiment les deux chancelleries occidentales. Celui que l'on surnomme le dernier dictateur d'Europe au pouvoir depuis 3 décennies a récolté 87,6% des voix lors du scrutin de dimanche. C'était le plus vaste camp de la mort du régime nazi. L'Europe a commémoré ce lundi les 80 ans de la libération du camp d'Auschwitz-Birkenau par l'armée rouge de l'URSS. Plus d'un million de personnes, pour la majorité des juifs, ont été tuées à Auschwitz durant la Seconde Guerre mondiale. Et dans la continuité de l'horreur nazie, les Allemands avaient constitué des groupes parmi les déportés. Leur rôle, manipuler et transporter les corps une fois morts. Ils étaient ensuite chargés de les faire disparaître. Parmi ceux qu'on appelle Sonderkommando, le français Alter Fenzilber, l'un des seuls survivants de ces groupes, son fils publie les carnets de son père. Roger Fenzilberg raconte dans RFI Midi.
Il a été affecté pendant 18 mois dans le Sonderkommando du Birkenau comme quasi-esclave chargé de sortir les corps des chambres à gaz une fois qu'ils étaient morts, de les dépouiller de ce qu'il pouvait rester éventuellement comme objet de valeur sur ces dépouilles, sur ces cadavres, notamment les dents en or, notamment les cheveux des femmes que l'on rasait pour pouvoir utiliser ses cheveux dans l'industrie allemande, et ensuite de faire disparaître les corps. Donc avant que n'existent les crématoires, ils étaient empilés dans des fosses, brûlés et recouverts de chaux vives, et puis ensuite enfournés dans les crématoires 24 heures sur 24, qui fonctionnaient au rendement le plus élevé, parce que les Allemands avaient besoin de faire de la place pour pouvoir brûler d'autres corps.
Roger Fenzilber, fils du déporté à Auschwitz, Alter Fenzilber dans RFI Midi. Des tirs nourris entendus jusqu'au centre-ville de Goma, en RDC, la capitale du Nord Kivu, où au moins 17 personnes sont mortes, 370 autres blessées, selon des sources hospitalières. Le M23 et ses alliés rwandais présents dans certains quartiers de Goma, la communauté d'Afrique de l'Est, se réunit mercredi en urgence en présence des dirigeants congolais et rwandais. Politique en France, le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a présenté ses vœux à la presse ce lundi. L'occasion de dévoiler ses priorités politiques dans un paysage instable dans lequel l'ERN a une influence certaine. Son objectif principal est clair, provoquer de nouvelles élections législatives, Raphaël Delvolvé.
Pour Jordan Bardella, plus que le gouvernement Bayrou, c'est le pays tout entier qui est plongé dans l'inertie.
Seul un retour aux urnes permettra en réalité de dégager un cap clair et de dégager une majorité stable.
Mais alors, le RN se prépare-t-il à une nouvelle censure dès le budget alors que le gouvernement négocie avec la gauche? Comme en décembre dernier, Jordan Bardella entretient le flou.
La censure pour nous, c'est pas un jouet. Nous allons continuer nous apporter nos mesures et je suis pas certain que le gouvernement en sorte grandisse que de donner des gages au nouveau Front Populaire.
Parmi les propositions notamment, la suppression pure et simple de l'aide médicale d'État, le RN se raccroche à l'immigration, son thème de prédilection en pleine offensive du ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau. Jordan Bardella s'évertue à le discréditer.
Il est condamné à être le ministre de la parole. Il n'a pas de majorité, il fait le choix de passer de la douce musique aux électeurs du Rassemblement National.
Bref, le RN s'opposait déjà avant, il continuera de s'opposer après, même sur les pendants les plus à droite du gouvernement. Un proche de la direction le confie, le parti est concentré sur 3 élections, 2 potentielles législatives cette année, les municipales l'an prochain et une toujours possible présidentielle anticipée.
Et invité de la chaîne LCI ce lundi, le Premier ministre François Bayrou a éclairci plusieurs points de la politique qu'il veut mener. Aucun nouvel impôt sur les ménages cette année, pas de suppression de postes d'enseignants ou encore l'instauration d'un droit du sol à Mayotte, une proposition de loi débattue à l'Assemblée lors de la niche parlementaire des Républicains le 6 février. À Wall Street, Nvidia plonge de plus de 17% après un vent de panique lié à l'IA, conséquence directe de la révélation DeepSeek. C'est la révolution technologique du siècle, en tout cas c'est comme ça que ses promoteurs la présentent. Une chose est sûre, l'intelligence artificielle fait l'objet d'une véritable course à l'échelle internationale. Jusque-là, on pensait que les Américains jouissaient d'une avancée considérable dans le domaine, Nathanaël Vitran. Une certitude bousculée ces derniers jours par un acteur chinois.
Retenez bien son nom, DeepSeek, recherche profonde. En bon français, une start-up venue de Hangzhou à l'est de la Chine qu'on pourrait présenter comme le ChatGPT chinois. Depuis qu'elle a été rendue publique la semaine dernière, la Silicon Valley ne parle plus que d'elle. D'abord parce que son modèle d'IA conversationnel rivalise avec celui des géants américains et les surpasse même dans ses capacités à résoudre par exemple des équations complexes. Ensuite, parce que la start-up chinoise est parvenue à ce résultat impressionnant en utilisant des puces électroniques beaucoup moins performantes que ses rivaux américains et en dépensant beaucoup, beaucoup moins d'argent. Washington, souvenez-vous, a tout fait pour limiter l'accès des entreprises chinoises aux puces dernière génération. Pékin vient de prouver qu'il pouvait faire mieux avec moins. Un conseiller du président américain va jusqu'à comparer DeepSeek à Sputnik. La mise en orbite inédite de ce satellite par les soviétiques avait déclenché une course à l'espace en pleine guerre froide. Une course qui s'est terminée avec un homme sur la Lune, il était américain, et la chute de l'Union soviétique 3 décennies plus tard. Bien malin qui saurait prédire comment cette course-là se terminera.
Et à l'instant, Donald Trump juge que l'IA chinoise DeepSeek est un avertissement pour les États-Unis. Et puis on connaît les groupes de la Cannes 2025. Le tirage au sort de la 35e édition de la Coupe d'Afrique des Nations a eu lieu ce lundi près de Rabat, au Maroc. Le pays organisateur, pas épargné par le tirage, affrontera la Zambie, les Comores et le Mali, quart de finaliste de la précédente édition. Le coup d'envoi de la Cannes aura lieu le 21 décembre à Rabat avec le match Maroc-Comores. La finale, elle, ça sera le 18 janvier 2026.